Europe 1.
Europe 1. 16h-18h. L'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1. Vous écoutez l'équipe est sauvage, la grande compète des journalistes. J-2 avant la quille. Demain, à ce micro, sera sacré le ou la meilleur journaliste d'Europe 1 de l'année.
C'est moi ?
Non, oui, non, c'est moi, non. C'est Eva Rock.
Mais non, Eva, ça ne peut pas être vous, vous êtes hors compétition. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Eva. Une seule certitude, donc vous ne serez pas élue chroniqueuse de l'année. Et pourtant,
sauf si on fait un truc un peu exceptionnel.
Ah, c'est vrai ça.
Ouais, on pourrait.
Ah, vous me soufflez cette idée. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Vous avez toujours été avec moi, fidèle au poste, à mes côtés dans les moments les plus délicats, comme la fois où on disait du mal du spectacle de notre invité, un célèbre humoriste, et qu'il a débarqué dans le studio avec 10 minutes d'avance.
Vous avez vu le spectacle de... Non.
Oui.
Ah si, c'est pas bien ?
J'ai vu... Bonjour.
Bonjour, bonjour, que de souvenirs Eva, on a vécu ensemble. Tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on regarde et ce qu'on zappe ce soir sur nos écrans. Mais d'abord, on accueille notre avant-dernière invitée de la saison.
Qui est humoriste, mais c'est pas lui.
C'est pour ça que je me suis dit.
Ah non, c'est pas lui, évidemment, on vous a pas reçu encore. Un humoriste dont le dernier spectacle est consacré aux joies de la paternité. Vous allez voir qu'en termes de cohérence éditoriale, on est vraiment au top. Puisqu'hier, on recevait Emmanuel Devos, qui a peu ou prou la même vision des enfants que notre invité cet après-midi. Emmanuel Devos, est-ce que vous avez un animal de compagnie ?
J'ai des enfants.
Bonjour Olivier de Benoît.
Je ne pourrais pas être plus drôle. Le clip Maurice
c'était hier.
Alors,
votre dernier spectacle est hilarant. Le petit dernier a été interrompu évidemment par le confinement. Vous y racontez votre quotidien de papa parfois débordé par ses quatre enfants. Ma première question est simple, je pense que tout le monde se la pose. À quel moment de votre vie vous avez décidé de faire 4 enfants ?
Alors déjà, je ne pourrais pas rester toute l'émission parce qu'il faut que j'aille donner un biberon.
M'excusez, c'est quoi, je suis au courant.
C'est quoi les âges de vos enfants ?
C'est pratiquement 3, 10, 13 et 15, je crois. Oui. Et c'est vrai qu'avec le confinement, j'ai vraiment compris ce que c'était que d'avoir des enfants. Et je lance un message d'ailleurs, si c'est possible, c'est qu'en fait, il paraît qu'il y a une génération Covid. Il y a plein d'enfants qui vont naître.
Oui, oui, oui.
Ce qui est dommage, c'est que nous, ceux qui avaient des enfants, avaient envie de les donner.
Oui.
Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu d'échange.
C'est vrai, on pourrait les échanger sur eBay.
Peut-être ça serait... cette émission, peut-être.
On peut lancer un appel.
Un appel.
Ici, tout est possible. Hein. Alors, Olivier Debenon, on va parler de votre spectacle, de la manière aussi dont vous avez vécu ce confinement avec, on le rappelle, Eva, 4 enfants.
Oui. Oh putain.
Oui, mais d'abord, je vous présente nos deux premiers concurrents du jour. En duplex avec nous de Nice, il est parti en été sur l'autoroute des vacances à la rencontre de ces hommes qui veillent à notre sécurité.
Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef et agent de la paix avant tout.
Bonjour Frédéric Michel.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Votre sujet du jour pourrait s'intituler « Vie ma vie de patrouilleur sur l'autoroute du soleil ».
Oui, vous l'entendez, l'autoroute elle est juste derrière moi. Je suis sur une aire d'autoroute, on entend les cigales et cet après-midi, je vous propose une balade sur la 8, l'autoroute du soleil. Mais pas seulement à la veille du premier grand départ, je vais vous raconter quelques anecdotes gratiné, arrivé sur le réseau et du nord au sud, ça fait des milliers de kilomètres, autant vous dire qu'il s'en passe des choses.
L'aire d'autoroute avant Valence, là, oui. Le courte paille, c'est le début de l'été pour moi. Et on va s'y retrouver peut-être la semaine prochaine.
Bah, si vous voulez bien, on va se retrouver directement à la plage.
Je serai tout seul au courte paille.
Non, je suis un fan absolu de courte paille.
Olivier, quel bon goût.
Imbattable. Je fais les commandes dans la voiture avant d'arriver.
C'est génial.
Si on est servi avant 30 minutes, c'est possible.
Oh, vous allez donner tous vos tuyaux, j'adore aussi le courte paille.
La table extérieure.
C'est la gauche. Monsieur sait vivre. Votre rival. Votre rival dans cette manche, Fred, est un des fleurons de la rédaction d'Europe 1. Notre monsieur littérature, Nicolas Carreau, qui lui, Olivier, n'a qu'un enfant, une petite fille, mais comme il en a cruellement pris conscience durant le confinement alors qu'il tentait de télétravailler, c'est déjà trop.
Il est mort pour la France et donc il a... Pardon, j'ai ma fille à côté de moi, je suis tout seul avec elle. Qu'est-ce qu'il y a, Madeleine ? Je lui avais mis un dessin animé sur la tablette, mais elle en veut un sur la télé.
Bonjour Nicolas.
Salut.
4 enfants, ça vous dit ?
Non, c'est bien déjà.
Voilà. Alors, à 4 enfants, on ne lit plus que Trot-Trot et Tchoupi, mais pour ceux de nos auditeurs qui caresseraient le projet de lire de bons livres cet été, vous nous parlez aujourd'hui d'un livre qui est un succès mondial.
Exactement.
Sauf en France.
Watership Down, ça vous parle ?
Pas du tout.
Non. Et ben voilà, c'est un roman culte mondialement. 53 millions d'exemplaires vendus depuis 1972, et tout le monde connaît ce livre, sauf nous les Français.
C'est-à-dire que c'est pas seulement aux États-Unis, c'est dans le monde ?
Dans le monde.
Et pas en France seulement. Ouais. Le programme
et
est donné.
Et c'est un livre pour enfants aussi.
Il est mystérieux.
Ouais.
Il est attrayant. Nous en saurons plus tout à l'heure. L'équipée sauvage peut démarrer.
Europe 1, l'équipée sauvage.
C'est donc l'humoriste Olivier Debenois qui passe l'après-midi avec nous. Alors Olivier, après vous être intéressé à votre femme, votre belle-mère et à vous-même, vous évoquez cette fois dans le quatrième spectacle vos enfants. Le spectacle s'intitule Le Petit Dernier. moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils prennent cher, vos enfants. Parce que, déjà, ils sont pas tous en âge de l'avoir vu, le spectacle, mais ceux qui l'ont vu, ils l'ont trouvé comment?
Alors, j'ai été obligé de mentir en leur disant que c'était une caricature.
Alors qu'évidemment, c'est juste le quotidien de papa.
Non, mais je le dis. Non, mais c'est vrai que c'est un défouloir. Non, mais il y a un truc politiquement correct avec les parents, ou alors tous les parents sont. C'est le bonheur tous les jours. Mais en fait, c'est vrai que c'est du sport et il faut en rire. Voilà. Donc c'est pour ça que je. Donc je raconte un peu. Voilà mes enfants, le petit dernier. J'explique que ça prend énormément de temps un enfant de s'occuper des enfants. Et j'ai un chiffre que récent, c'est que en moyenne, une femme consacre 119 minutes par jour à s'occuper de ses enfants et un homme 49 minutes. Et d'ailleurs, j'en avais déduit que ça voulait dire que les hommes étaient plus efficaces.
Ça, c'est une bonne déduction.
C'est vrai. C'est ce qu'aurait pu faire Mathieu Noël.
Et il y a aussi, et ce que j'aime bien aussi, parce que moi je suis suisse, il y a quand même une évaluation du coût que représentent les enfants. C'est très important, parce qu'on n'y pense
pas. Non, c'est pas parce que vous êtes suisse, c'est parce que vous êtes radin.
C'est possible aussi. Voilà. Je suis suisse et radin. C'est le combo gagnant, comme on appelle ça. Et vous dites, élever un enfant de 0 à 18 ans, ça coûte 50 000 euros. C'est un calcul que vous avez réalisé.
Oui, sûr. Et j'ai dit effectivement à mes enfants, je vous file les 50 000 tout de suite et vous partez. Et c'est vrai que. Il y en a un qui hésite encore. Non, mais c'est vrai que j'explique à un moment donné dans le spectacle, d'ailleurs, les avantages et les inconvénients pour ceux qui n'ont pas d'enfants à avoir ou pas des enfants. Voilà. J'explique que les avantages, par exemple, effectivement, les allocations familiales. Il y a la demi-part fiscale.
Ne l'oublions pas.
Dans les inconvénients, ça pollue. Un enfant,
ça pollue énormément.
Et un enfant de 0 à 18 ans, la pollution, c'est 100 tonnes de CO2 dans l'atmosphère par an. Un enfant, moi j'ai 4 enfants, ça fait 400 tonnes
c'est
de CO2.
Énorme. Plus
et qu'un Boeing. Parfois, quand ils me saoulent, je leur dis, attention les gars, j'ai fait un petit geste pour la planète.
Quelle horreur.
La joie indicible d'être père, passé à l'acide. Olivier de Benoît est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Dans quelques jours maintenant, nous allons prendre d'assaut l'autoroute du soleil. Dans ma 206 GTI surbaissée, spoiler aluminium et Popolini, je doublerai certainement Olivier de Benoît dans son Qashqai 7 classe, en lui faisant de gros appels de phare. Mais je serai puni, car au péage, des patrouilleurs m'intercepteront. Qui sont ces hommes qui veillent sur nous sur l'autoroute du soleil?
Ce n'est pas qu'on est des surhommes. Nous sommes a fortiori des hommes comme les autres. A fortiori, nous sommes donc des hommes avant tout.
Fred Michel est parti à leur rencontre.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Si vous envisagiez de faire un enfant dans les mois qui viennent, un conseil. Regardez quand même le dernier spectacle d'Olivier de Benoît d'abord. Votre aîné a 15 ans, vous nous avez
oui, exactement, 15
ans. Là, on est dans l'adolescence. Est-ce que vous êtes du genre à la fliquer un peu sur les réseaux
sociaux?
Non,
mais je découvre là pour la première fois, depuis il y a quelques jours, j'ai découvert les premières blagues de... Ma fille me dit samedi dernier, je vais faire un pique-nique aux Invalides. Et il y avait cette phase. Moi, j'étais dans ma tête, un petit carré avec. On prend un sandwich, on récite des poèmes.
Vous êtes mignon.
C'était le projet X, voilà.
Le projet X.
C'est-à-dire que voilà. Donc là, j'ai compris qu'on avait changé de dimension. Voilà. Fini de choupi en russe sur YouTube, parce que c'est le premier qui sort. Bienvenue au projet X. Voilà.
Voilà, il va falloir que je mette un russe, c'est vrai.
Pardon ?
Choupi en russe, c'est vrai.
Tu l'as aussi, choupi en russe, vu 500 millions de fois, parce que les mômes le regardent 50 fois par jour.
Les mômes sont formidables. En tout cas, mon conseil pour la plus grande, si elle a 15 ans, ne l'envoyez pas sur la Côte d'Azur cet été. Elle risquerait d'y croiser Frédéric Michel, notre correspondant à Nice. Type bizarre, écumant les bars de Jouan-les-Pins et proposant ses services à toutes les jolies pépées, comme il les appelle, qu'il croise.
C'est tout mignon, tout beau, tout poilu.
Ouais. Alors, la nuit se lâche un peu, mais le jour, c'est un excellent journaliste. Fred Michel, vous êtes allé à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui patrouille sur l'autoroute du soleil pour assurer notre sécurité.
Oui, sur l'autoroute A8, une route que vous connaissez bien, Eva. Rappelez-vous, vous virez entre Paris et Nice il y a quelques années. Une époque où il y avait encore des agents au péage. Et ils sont de plus en plus rares. Et ces agents en ont vu de toutes les couleurs, notamment des couples dans des positions délicates ou en petite tenue, voire même totalement nus.
Des gens en train de baiser en arrivant au péage.
Mais enfin,
ce n'est pas rare. Mais peut-être pas sur le réseau autoroutier qui vous mène dans votre maison de campagne de Normandie, Mathieu.
Non, j'ai jamais vu.
Plus on descend vers le sud, plus c'est chaud,
plus c'est, chaud.
C'est bien connu.
En Normandie, il faut s'en doudoune.
Je peux aussi vous raconter l'histoire de ces Coréens très attachés à leur déjeuner. En plein été, un patrouilleur est appelé pour sécuriser un camping-car subitement tombé en panne électrique. À son bord, des touristes coréens. Jusque-là, rien d'exceptionnel, enfin pas trop. Sauf qu'à l'heure où le dépanneur est arrivé pour charger le véhicule sur sa remorque, ses passagers étaient en plein déjeuner. Alors on ne dérange pas un Coréen qui mange. Le patrouilleur raconte qu'il a eu beau appeler les gendarmes, ils n'ont pas voulu interrompre leur repas. Lui a rebroussé chemin, mais une fois rentré à son bureau, le patrouilleur va se faire remonter les bretelles par qui ? par l'ambassade de Corée qui entre-temps a été alertée par les touristes, sans doute influents dans leur pays. Je pourrais aussi vous raconter de nombreuses histoires d'animaux, comme ces touristes affolés qui arrivent au péage et signalent à l'agent avoir vu un kangourou sur la route. Alors, mine étonnée du préposé au péage, mais quelques minutes plus tard, un quart de touristes australiens s'arrête et là, ce sont des passagers qui sont affolés. Leur kangourou s'est bien échappé.
Mais qu'est-ce qu'ils étaient venus en vacances.
Ils étaient venus en vacances avec leur mascotte qui a profité d'une pause pipi pour faire quelques bonds sur l'autoroute. Et en 20 ans de carrière, Jérémy en a vu bien d'autres, notamment sur l'aire de Cambarette, sur la 8, près de Brignoles.
Des clients qui s'étaient arrêtés faire une pause et ils descendaient en vacances, ils transportaient un chat. Ils sont descendus boire un café. En revenant, ils n'ont jamais pu remonter dans leur véhicule. Le chat était hystérique. J'ai même dû faire appel aux pompiers pour s'occuper du chat. Ah, il était dans la voiture, hystérique. Il n'a jamais laissé remonter ses propriétaires.
Donc Mathieu, Benoît, Eva, oui. Le conseil en voiture, garder en cage ou attacher ces animaux.
Et parfois, les vacanciers au volant ont des comportements improbables, on va dire.
Oui, comme ces touristes de la Sarthe qui ont pris le chemin de la Méditerranée avec, et ce n'est pas une blague, leur bébé installé sur la galerie dans son landau, attaché sur le toit de leur voiture.
C'est pas vrai.
Si, si, on aurait écrit cela dans le scénario d'un film. On ne l'aurait pas cru. Et je ne reviens pas, c'est un classique sur les enfants qu'on oublie sur une aire d'autoroute.
Oui, mais ça,
sa femme,
ça, Olivier,
qu'on laisse aux toilettes. N'est-ce pas, Olivier?
Je vous confirme, ça ne marche pas.
On retiendra l'histoire de cet homme. Je me demande si ce n'est pas vous, Olivier, qui a récemment réussi le tour de force d'oublier sur l'aire de Pont de l'Isère, non pas une, mais deux personnes, en l'occurrence, vous l'avez dit, sa belle-mère. Et sa femme.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est ce qui s'appelle. Un petit brillant.
D'une paire de coups, effectivement, c'est bien joué. Merci beaucoup, Frédéric Michel. C'était un papier à la fois clair, brillant et novateur.
Presque comme vous, Mathieu.
Presque comme moi, c'est pas faux, bien vu. Un point pour Fred.
Europe 1.
La paternité est une chose merveilleuse qui commence dès le jour de l'accouchement.
Vous inquiétez pas, tout va très bien se passer là. Bon, monsieur, vous enfilez une blouse, un masque, un chapeau et you come with us. Vous n'allez pas commencer à me gonfler, hein. Aujourd'hui, c'est la pleine lune, tout le monde accouche en même temps. On a passé le sage-femme, passé l'infirmière. On n'a même pas assez de salle. Et le titulaire, putain, il est même pas là. Oh merde, vous suivez sur moi, je vous pète la gueule.
Et puis après, ben, c'est encore mieux. Comme notre invité, l'humoriste Olivier de Benoît, va nous l'expliquer ou pas.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
À la frontière du rire et de l'info, vous écoutez l'équipée sauvage, cette émission où jadis on se tapait la bise gaiement, on se tombait dans les bras, mais où désormais, Covid oblige, on ne se touche plus que par les coudes.
Heureusement, vous n'avez pas ripé sur ce mot coude, hein.
Heureusement, la subtilité de notre humour, celui des Varocs surtout, demeure. Et aujourd'hui, on est très heureux de passer l'après-midi avec un humoriste qui m'a permis de prendre conscience que je n'étais pas le seul papa à galérer grave. Olivier de Benoît, votre dernier spectacle dresse un bilan mitigé, dirons-nous, de la paternité.
Des joies de la paternité.
En vrai, vous êtes un père heureux quand même. C'est
oui, non, bien sûr. Non, mais pour être sérieux, oui, évidemment. Mais on a le droit, on aura d'en avoir marre. C'est tout. On aura d'en avoir marre, surtout après le confinement. C'est vrai que c'est vrai que pendant le confinement, j'ai mis des règles pour que ça se passe bien. Et je ne sais pas si d'autres ont. Ben, j'ai commencé à leur imposer de se réveiller le plus tard possible.
Ça ne marche pas, ça.
Et si, si, parce qu'ils n'avaient pas à sortir de leur chambre. Et on dînait à 16h.
Pour qu'ils se recouchent le plus tôt possible.
Après un temps calme et au pieux.
On a oublié. C'est ça.
Non, mais vous dites ça.
Le temps calme, il est hyper important. Il est hyper important, le temps calme.
Surtout avant d'aller se coucher.
Vous les avez fait bosser, vos enfants, pendant le confinement. Avec des petites vidéos sur Instagram qui sont hilarantes, d'ailleurs.
Ouais, c'est sympa. C'est vrai que j'en ai mis un à l'école trois semaines avant le début, avant la fin du confinement, qui a attendu trois semaines devant l'école en lui disant que dans cinq minutes ça ouvrait. Il y en a une autre, la celle de 3 ans, à qui effectivement j'ai fait jurer par écrit qu'elle se cassait le 11 mai définitivement et qu'elle prenait un appart.
La petite qui a 3 ans justement et qui signe ce contrat, ce odieux contrat, comment on fait avec des enfants pour leur apprendre le second degré quand on a 3 ans? C'est compliqué.
Non, mais alors, elle n'a pas compris du tout.
Oui, oui,
donc,
voilà.
Il y avait donc 3 tchoupis en russe à gagner.
D'accord. Vous les achetez.
Oui, parce que j'ai même accroché un iPad dans mon dos, comme ça elle me suit. Avec Choupi en slovaque. C'est vrai que non, je tiens à dire un truc parce qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent, je crois. Oui. C'est que il y a eu un vrai problème pendant le confinement, c'est les tablettes. C'est-à-dire qu'il y a eu une intoxication extraordinaire. C'est qu'avant le confinement, on trouvait ça déjà beaucoup. Et depuis, c'est devenu n'importe quoi, en fait. Je crois qu'il y a un temps d'écran entre 5h et 7h par jour. Mmh. Et ça devient, je ne sais pas comment on va faire pour les débrancher après.
Et pour leur imposer des temps calmes, ils vont encore nous réclamer la tablette à tous les coups. Ouais. Vous avez inventé la School of Lexomil.
Oui.
Attention des parents, et ça, c'est... qu'est-ce qu'on y apprend? Quel est le cursus au sein de la School of Lexomil?
Oui, oui. Parce que j'explique que globalement, ça peut très vite mal se passer avec les enfants. Alors moi, ça se passe bien, mais ça peut très vite. Et je lui explique que j'ai eu des pensées improbables. Par exemple, une fois, mon aîné m'a demandé ce que c'était un Kinder. Et je lui avais dit, voilà, un Kinder, c'est comme maman qui est enceinte, sauf le Kinder, le cadeau à l'intérieur, il fait plaisir.
C'est horrible.
Vous dites aussi, parce qu'il y a des théories scientifiques intéressantes aussi, les enfants nés par césarienne sont des branleurs.
Oui.
Ils n'ont rien fait dès la naissance. 80% des fonctionnaires sont nés par césarienne. C'est un gilet jaune qui me l'a dit. C'est une source fiable.
Une source fiable. Ouais, parce que j'explique effectivement un truc, et là auquel je crois énormément, j'y suis frère, moi. Donc je crois beaucoup à la place de l'enfant dans la famille qui conditionne tout. Alors je dis par exemple l'aîné, est-ce qu'il y a un aîné parmi vous?
Bah moi je suis l'aîné, unique.
L'aîné Eva, l'aîné c'est le prototype dans une famille.
Ah oui,
c'est vrai. Si nous les parents, on fait d'autres enfants aînés, c'est qu'on ne va pas rester sur un échec. L'aîné c'est la crêpe ratée, celle qu'on laisse au chien. Le second... le second, tout le monde s'en fout. En plus, c'est dans une famille. Parce que les parents ont bossé pour l'aîné. Du coup, le second, il se relâche. Du coup, le second, il est livré à lui-même. C'est un paria. Il est souvent moche. Tu me le confirmes. S'il y a un troisième, il finit souvent mal. 70% des pédophiles sont des seconds. Et après, le troisième, le troisième, il est super. Les parents ont pris des
énergies. Ça, c'est vous, ça.
Oui, c'est moi. Voilà.
Cette théorie a été construite.
Ça, ce sont des avortements qu'on m'a
tourné. C'est l'avantage fiscal, le troisième.
L'enfant unique,
ça,
il est performant,
Mathieu. Ouais.
À l'aise avec les adultes, premier classe, si c'est tout sur tout, c'est un petit con, tu me le confirmes?
Je confirme surtout la partie petit con, c'est la plus véridique.
Donc j'ai toute une théorie. Non mais c'est vrai que c'est la place de l'enfant à la famille, ça conditionne tout.
Le professeur Olivier de Benoît reste avec nous. Europe 1. Notre prochain journaliste en compétition a deux visages. Celui d'un formidable gentleman pour nos auditrices qui rêvent de comment il doit être et celui d'un impardonnable goujat pour Eva Roch qui, le pratiquant au quotidien, sait comment il est en vrai. Dernière bourde en date, la semaine dernière quand Nicolas Carreau a évoqué sa prochaine collaboration avec Pascal Clark.
Et je vais être avec Pascal Clark cet été.
Ah, c'est bien.
Pourquoi tu as les chocottes? Elle est pas sympa, Pascal?
Si, mais elle m'impressionne, moi.
Moi, je t'impressionne pas?
Bah, moins, quoi.
Eh oui, un petit peu moins. Et heureusement, voilà. Ce n'est pas sur son élégance qu'il sera jugé, mais sur son aptitude à nous proposer un nouveau roman palpitant pour cet été. Un roman d'autant plus palpitant qu'il est inconnu en France et c'est un succès mondial partout ailleurs.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission qui est au dépassement intellectuel, ce que Fort Boyard est au dépassement physique. Pour présenter cette émission, celui qui prouve qu'on peut parfaitement, en 3 mois de confinement, passer du physique d'Olivier Mine à celui de La Boule, Bibi vous salue. À mes côtés, l'équivalent de Félindra tête de tigre, Eva tête de cougar. Dites-moi Eva, je sais que parfois vous regrettez de ne pas avoir d'enfant. Maintenant que vous avez vu le spectacle d'Olivier de Benoît, je sens que vous regrettez beaucoup moins.
Ah, c'était... j'attendais
j'attends votre avis parce qu'à mon avis, ce spectacle vous a fait réfléchir.
Mais moi j'ai des nièces et c'est très bien. Et
ça vous suffit? Ça compte pas. Les nièces, elles sont sympas, tu les vois un petit peu le week-end.
Mais on peut les ramener chez elles.
Mais voilà. Quand elles crient trop, on les ramène. Olivier de Benoît est donc avec nous cet après-midi. On continue de parler de votre spectacle, Le Petit Dernier. Mais l'heure est venue d'écouter notre deuxième concurrent du jour, le charisme et son 167e signe particulier. Oh. Quand on l'a rencontré une fois, surtout dans le cadre d'une émission où il vient chez vous pour évoquer votre bibliothèque, il est impossible d'oublier le visage de Nicolas Carreau, le spécialiste littérature d'Europe 1. Hélas, impossible n'est pas français.
Moi, j'ai visité sa bibliothèque à Frédéric Lenoir.
Ah oui ? Comment vous l'avez visité ?
Avec vous.
Mais je me disais, mais on se connaît.
Et oui, vous avez vu quelque part, mais où? Eh bien, chez lui. Nicolas Carreau, tâchons d'oublier cet affront et parlons littérature. Aujourd'hui, un best-seller vendu à plus de 53 millions d'exemplaires. Forcément, on le connaît tous.
Eh ben non. Ça s'appelle Watership Down, publié en 1972 et signé Richard Adams, puisqu'il est britannique, vendu à 53 millions d'exemplaires, effectivement, best-seller mondial. 53 millions, c'est colossal, quoi. C'est les plus grands classiques de la littérature qui se vendent.
Je crois que c'est 100 000 de plus que votre dernier livre.
Oui. À peu près, oui. Non, c'est pareil que mon dernier livre, on le connaît mal en France aussi. Oui, c'est très bizarre, on le connaît très mal en France. Il a été édité plusieurs fois pourtant en français, traduit plusieurs fois, et à chaque fois, ça a fait un flop. On est passé complètement à côté de ce chef-d'œuvre.
Mais pourquoi ?
Les éditions Monsieur Toussaint Louverture ont retenté le coup il y a quelques années, en revoyant la traduction, en dépoussiérant, en faisant une couverture magnifique comme d'habitude. Et là, c'est la version poche qui vient tout juste d'arriver, mais la couverture est très très belle aussi, je vais y revenir tout à l'heure. l'histoire. Nous sommes dans une garenne chez les lapins, donc. Les lapins qui mènent une petite vie tranquille. Tranquille, pas pour tout le monde, parce qu'il y a d'un côté les périphérés, les petits, les faibles qui triment, et de l'autre, il y a les membres de la Ourda, qui sont les lapins très costauds, les privilégiés. Et tout ce beau monde obéit aux ordres du Padisha, qui est le grand maître lapin.
Chez lapin. Et c'est, donc c'est un roman qui se lit quand même sous substance. C'est pas un roman qu'on va lire comme ça.
Au départ, je vais vous raconter, mais au départ, c'est un roman pour les enfants. Et donc, il y a deux lapins qui sont les héros du livre, dont un qui a des visions, qui voit un peu dans le futur. Et à un moment, il voit que la garenne va être détruite par une immense catastrophe. Alors, il dit à son copain, et ils vont ensemble prévenir le Padisha, mais personne ne les croit, évidemment. C'est toujours comme ça. Et alors, ils prennent 10 lapins, ils s'en vont pour essayer de trouver une nouvelle terre promise, une nouvelle garenne où ils pourraient s'installer. Alors donc, ils partent, et c'est comme tous les romans d'aventure, ils quittent leur coin tranquille et ils vont vivre des aventures extraordinaires alors qu'ils ne sont pas tellement faits pour ça au départ. Et il y a des obstacles à franchir, des ennemis qui arrivent, etc. Jusqu'à ce qu'ils trouvent éventuellement une terre promise qui éventuellement s'appellera Watership Down. C'est pour dire qu'ils la trouvent à un moment. Mais c'est
merci
encore
de spoiler.
D'autres difficultés parce qu'il faut recréer une communauté, etc. Il y a un moment où il n'y a pas assez de haze. Il n'y a que des mâles lapins. Et donc, il faut trouver des hases, il faut aller dans une autre garenne. Bon, bref, je ne vous fais pas toute l'histoire. En fait, ça a été conçu. Richard Adams, il n'est pas écrivain au départ. Et c'est ses enfants qui lui demandaient justement de lui raconter des histoires. Et il a raconté cette histoire. Et ensuite, il a écrit ce livre et il a essayé ensuite de le faire publier. Écoutez l'éditeur, Dominic Bord.
Il allait passer des vacances à Stratford-upon-Avon, la ville de Shakespeare. Ses filles lui demandent de leur raconter une histoire en voiture. Parce qu'en fait, il adorait raconter des histoires. Mais ses filles-là, cette fois, lui disent « Il faut que tu nous racontes une histoire que tu ne nous as jamais racontée et qui nous tienne en haleine. » Et alors, il se lance. Et c'est parti pour Watership Down. Et il continua l'histoire bien au-delà du simple trajet en voiture. Il la continua tellement bien qu'à leur retour de vacances, ses filles lui dirent « Il faut absolument que tu écrives ce livre. » Et il écrit le livre, qui est refusé par plus de 50 éditeurs. Il était très gêné, il envoyait sa femme récupérer les manuscrits. Et puis finalement, un éditeur l'accepte. Et là, du jour au lendemain, c'est le succès énorme.
Sauf en France.
Mais ça me fait penser à Marc Lévy, il n'a pas commencé comme ça. Marc Lévy, ce n'est pas des histoires qu'il racontait à ses filles.
C'est souvent comme ça. Hein. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, c'est pareil. Il y a beaucoup d'histoires qui sont a priori pour les enfants qui étaient en fait des histoires racontées, mais qui ensuite deviennent aussi des histoires pour adultes. Parce qu'il y a double niveau de lecture, bien sûr, dans Watership Down. Il y a plein de métaphores sur la vie, sur le monde, sur la guerre.
Et Olivier de Benoît,
quand est-ce que vous sortez votre livre?
Non, enfin, moi, l'histoire que j'ai racontée, je me suis engueulé par ma femme parce que hier soir, je voulais changer un peu. Donc j'ai dit à ma fille qui a 3 ans pour l'endormir, est-ce que tu veux que je te raconte l'histoire de papa qui sauve la planète ou l'histoire de maman qui perd ses clés? non, mais c'est vrai que ça m'ennuie tellement de raconter l'histoire. L'histoire que je fais, là, je suis sérieux tous les soirs. Je dis à ma fille, voilà, c'est l'histoire de Oui-Oui qui part à New York. Il est crevé, il va à l'hôtel, il se met en pyjama et il compte jusqu'à 10.
Et normalement, à 0, normalement, elle dort.
C'est un truc bien. Voilà, j'aime pas donner mes plans, mais bon, voilà, Europe 1, c'est une famille. Allez, c'est parti. Ça fait pas un livre. Hein.
Non, juste, je voulais signaler que les éditions Monsieur Toussaint Louverture, ils sont connus aussi pour leurs livres bijoux, en fait. Ils font des objets magnifiques. C'est-à-dire que là, par exemple, la couverture du poche de Watership Down, il y a comme ça des motifs floraux en surimpression.
Mais vous arrivez à l'expliquer pourquoi ça a été à 53 millions d'exemplaires dans le monde et pas en France?
C'est un mystère de l'édition. On ne sait pas pourquoi.
En tout cas, c'est une bonne idée.
Ça nous parle moins.
Mais ouais, carrément,
pour cette
édition, un livre d'été, ouais.
Si c'est un beau livre.
12,50 €.
12,50 €.
C'est un bijou, un livre culte.
Oui, et 11,30 € avec le code Nicolas Carpent. Merci Nicolas.
Europe 1.
C'est une séquence qui soit subjugue nos invités, soit les tétanise. Le quiz de Culture G qui les oppose à Eva Rock. Emmanuel Devos était un peu angoissé hier. Michael Youn, lui, lundi, était beaucoup plus enthousiaste.
Moi, je suis excité. Hein. Ah ouais. Ah, moi, je suis en demi-dur. Hein.
Comment se sent Olivier de Benoît à l'approche du quiz? Je n'ose pas regarder.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Jacques Martin disait « Les enfants sont formidables ». Oui, mais il avait beaucoup de nounous, Jacques Martin. Parce que quand tu dois les élever toi-même, les gosses, comme notre invité Olivier de Benoît, c'est pas la même chanson. Olivier qui en outre réussit l'exploit, cher à Julien Lepers.
Oh, oh oui, oui, c'est un 4 à la suite. Oui, ça c'est bon.
4 à la suite, c'est beau. Mais alors, la question est simple. Vous êtes maladroit, vous êtes catholique.
Alors déjà, je suis le mari de ma femme. Est-ce que je suis le père des 4?
C'est pas sûr.
Je sais pas. Non, mais c'est vrai que non. Mais c'est vrai, comme j'ai eu 6 frères, j'ai l'impression d'avoir une petite famille à côté.
Mais donc, vous allez en faire 6?
Non.
Ah non, c'est fini.
Ah non, c'est complètement fini. Non, c'est complètement fini. D'ailleurs, en ce moment, je regarde plein de techniques sur Internet pour être sûr de ne plus jamais avoir d'enfants. Et d'ailleurs, il y a une méthode américaine qui préconise de se mettre nu et de s'approcher doucement d'un ventilateur en fonctionnement.
Mais non.
Ça sera dans ce studio, parce qu'il n'y a pas de ventilateur.
Ah non, on a bien compris. On est tous
là,
son
ça
âge.
Va mieux, là, ça va mieux.
Mais c'est aussi un rythme, les enfants, un rythme artistique, puisque si j'ai bien compté, c'est un spectacle par enfant.
Exactement.
Donc là, voilà. S'il n'y a plus d'enfants,
donc
plus
pour
de
le cinquième, voilà.
Qu'est-ce qui va se passer?
Ma femme, j'ai déjà dit, parce que je voudrais revoir le public, j'ai dit à ma femme, j'aimerais bien avoir un cinquième enfant. Elle m'a dit, je peux pas parce que je suis trop âgée. Du coup, j'ai dit, pourquoi pas faire appel à une mère porteuse. Et là, elle m'a dit qu'elle était contre le principe de l'insémination artificielle. Et je lui ai dit, mais pourquoi faire l'insémination artificielle? Faisons ça à l'ancienne. Faisons ça à l'ancienne.
Dans la nature, effectivement. D'ailleurs, je connais quelqu'un. Bref. Et là, tout de suite, vous aviez le nom déjà. C'est, ça que c'est là qu'elle a eu la puce à l'oreille. Quand même.
C'est
Tatiana. Alors, attention, Livy, on papote, on déconne. Mais c'est un moment décisif de votre carrière qui va se jouer à présent. Face à vous, celle que vous allez maintenant affronter sur un test de culture G. Car oui, ici, Évaroc est à la fois Félindra et le père Fouras. Ou plutôt, comme vous allez le découvrir, la mère foireuse. C'est l'heure du quiz. Un quiz, évidemment, qui va concerner les enfants. On peut donc en conclure que cette émission est tout sauf improvisée. C'est parti. Évaroc, la chanson « Come as you are » du groupe Nirvana existe aussi en version berceuse pour enfants. Vrai ou faux?
Oh, ça doit bien exister. Oui, je dis oui.
Réfléchissez, mon conseil.
Oui.
Je vous donnerai ce conseil jusqu'à la fin de la saison.
Je dis oui, parce qu'il y a plein de chansons comme ça qui sont adaptées en berceuse après. Enfin, pour les enfants.
Oui, il y a plein de chansons, mais la chanson de Nirvana dont je vous ai parlé, est-ce qu'elle est adaptée?
Oui.
Eh bien, c'est une bonne réponse.
Eh oui.
Je pense qu'il se serait resuicidé s'il avait entendu.
Oui. Je préfère la version énervée. Ouais.
On préfère la version énervée. Olivier de Benoît,
oui, c'est moi.
Que peuvent faire les enfants à l'âge de 5 ans? Ils peuvent
fuguer.
Sauter sur un... Alors, ça c'est...
Fuguer, oui.
On peut rajouter l'option fuguer.
Oui.
Ils peuvent sauter sur un pied. Ils peuvent mentir ou affirmer que concernant les masques, ils ne sont pas nécessaires pour tout le monde parce que ce sont des gestes techniques précis et si on en a une utilisation qui n'est pas bonne, ça peut être contre-productif.
Alors moi, je réponds évidemment la troisième. C'est ça ou pas non?
C'est évidemment pas ça. Les enfants.
C'est cloche-pied, non?
De 5 ans. Mauvaise réponse. Oh, moins un point pour avoir qu'elle a donné une mauvaise réponse alors qu'elle n'était pas invitée à répondre.
Oui,
les compteurs sont remis à zéro. Heureusement pour l'intérêt de ce quiz.
Ils ne savent pas mentir avant 5 ans?
Et non. C'est à partir de 5 ans qu'un enfant est capable de mentir. Certains, rares, peuvent y arriver à partir de 2 ans comme vous, visiblement, Eva. Et on peut sauter sur un pied à partir de 4 ans.
Il y en a qui sont doués, non?
Je savais pas. Juste pour les masques, je voulais dire, je suis hyper content que tout le monde porte un masque dans Paris parce qu'on peut plus dire que les Parisiens font la gueule.
Ah oui, c'est vrai.
On voit plus, c'est vrai.
C'est vrai. Et c'est vrai que les Parisiens, je trouve que tout d'un coup, c'est plus gay. On devrait l'avoir toute l'année, non? Sans déconner.
Mais vous savez quoi? On va certainement garder les masques pendant un petit moment, surtout dans les transports. Évaroc, Olivier de Benoît, une question, 3 propositions, vous répondez tous les deux. Matt McMillan est un papa génial. Pourquoi? Parce qu'il a simulé un incendie dans sa maison et fait venir un Superman pour l'éteindre. Il n'a pas réussi, mais c'est le geste qui compte. 2. Il a enregistré les gazouillis de son bébé pour en faire une chanson de AC/DC. Ou il a fait le portrait de son enfant avec son premier caca. Si un jour français prononçait cette phrase à la radio, vous n'aurez pas compris.
J'ai dit évidemment le 2.
Eh ben moi je dis Superman qui vient
Superman qui vient éteindre un feu, mais le feu ne s'éteint pas et tout le monde meurt. C'est vraiment, c'est effectivement dans un quiz feel good,
mais
c'est
non,
effectivement
la chose qui est possible.
Si vous aviez réfléchi avec votre tête, vous auriez eu la bonne réponse. C'est une mauvaise réponse, Eva, c'est la bonne réponse pour Olivier de Benoît. Écoutez,
mais non, mais les enfants, ils peuvent être dehors, la maison.
Ses enfants, il fait cramer tout le monde et il a juste le temps de sortir lui. Les pompiers sont jamais venus.
À sa décharge, la bonne réponse, c'est souvent la plus stupide.
Merci.
Même l'invité sidéré par le niveau des bas. Là, ça veut dire que...
On s'est trompé de studio, non?
je ne sais pas, je suis désolé. Il a recréé, ce papa, un titre d'AC/DC grâce au petit areux de son bébé. Et là, vous reconnaissez?
Thunderstruck,
exactement. Et il a attendu que son bébé fasse les 21 notes nécessaires, un hatchoum à la batterie et hop, ça a donné ça. C'est vachement réussi.
Et on peut mettre le feu à la bande ou pas?
Oh, et ça. Olivier de Benoît, la chanson « Prendre un enfant par la main » a été enregistrée par
Pendre un enfant par la main. Parce que c'est Yves Duteil.
C'est une autre version. La chanson d'Yves Duteil, « Prendre un enfant par la main », a été enregistrée par ce bon vieux Yves en langage des signes. Vrai ou faux?
Moi, je suis seul à répondre.
Ah, vous êtes seul.
Bah, je réponds évidemment oui.
Évidemment non. En même temps, avec une guitare dans les bras et un enfant dans la main, c'était Coton.
Oh, Eva Rock. C'est nul, cette
blague. Eva Rock.
Pour la vanne, elle est bonne.
Oui, ouais, elle est bonne. Enfin, pas trop. Eva Rock.
Oui.
Si vous chantez à votre enfant, il court le furet.
Ah oui, j'aime bien ça.
Il faut savoir que c'est une chanson anticléricale, vrai ou faux?
Ah, ça, c'est fort possible.
Mais je ne vous demande pas si c'est possible
non,
ou pas.
Je dis
de
oui.
m'apporter une réponse
je
concrète
oui.
à la question.
Je dis oui, je dis oui.
Vous dites oui, mais pourquoi oui.
Bah, je vous dis oui.
Cette réponse ne me suffit pas.
Ah bah
j'ai
si.
Décidé que ça ne suffirait pas. Qu'est-ce qui est anticlérical dans cette chanson?
Attendez, je vais essayer de me la remettre en tête.
Il n'y a pas besoin d'aller très loin, il suffit du titre. Il court, le furet. Réfléchissez. Pensez à Anne-Mana Vermeaux 1959.
Ah bah oui, non, moi je suis nulle en...
En
contre-prêterie, là, c'est ça?
En contre-prêterie.
J'arrive même pas à dire
ça,
le mot, d'ailleurs.
Vous n'arrivez pas à dire le mot. C'est effectivement une contre-prêterie. Oui. Il court, le cœur, le furet. Ça donne quoi?
Bah, non, mais dites-moi. Non, mais franchement, j'ai jamais compris ce truc. Hein.
Il veut que tu le prononces. Il veut que tu le prononces.
Ah non, non, vous en avez assez des conneries sur moi. Demain, on arrête l'émission, de toute façon. Allez-y.
Tu remplaces le F par le C?
Oui, d'accord, curé.
Il court, le furet. Eva!
Non, mais je sais pas.
Il fourre le curé.
Ah,
ah voilà, merci,
voilà. Là, on reconnaît les bouffeurs de curé.
Ah.
C'est Nicolas Caro qui remporte le quiz. C'est Olivier qui remporte le quiz, évidemment.
Europe 1.
Son érudition insolente vient tout juste de vous gifler sur le quiz. Olivier de Benoît, préparez-vous à découvrir l'autre facette des baroques. Eva, la cinéphile, qui chaque soir nous guide dans la jungle des programmes télé avec lucidité et humour. Car oui, c'est aussi une femme très drôle.
Et le livre est... brillant.
Oui, parce que celui-là, vous l'avez déjà lu.
Ah oui.
Et ouais. Il l'a lu en anglais, car non. Monsieur est polyglotte.
Sur épreuve.
C'est quelle langue, ça? Pardon. C'était une vanne, mais...
Les conseils télé-écran d'Eva.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
Olivier de Benoît est notre équipier sauvage cet après-midi. Dites-moi, Olivier, est-ce que le soir venu, une fois que vous avez couché les quatre enfants... vous avez encore l'énergie pour vous engueuler avec votre femme devant l'écran d'accueil de Netflix? Il faut de l'énergie pour ça.
Non, parce qu'on a chacun notre écran. Non, mais c'est vrai en plus.
C'est vrai.
Sauf que ma femme a décidé qu'elle ne mettrait pas de casque. ça doit parler à beaucoup de couples.
Oui.
Mais elle a décidé que comme elle ne mettait pas fort, c'était à moi de me démerder. Donc je suis condamné à regarder le mien dans les chiottes. Non,
je veux dire, vous pouvez mettre un casque. Vous.
Non, mais je ne vois pas pourquoi.
Pourquoi lui?
Non, mais qui a écrit dans le ciel ma femme a le droit de regarder sans casque? Non, sérieux. Du coup, je suis allé chez ma maîtresse, c'est plus loin. Non, mais et j'ai regardé, le dernier truc que j'ai regardé, je pense à chaque fois à Eve, c'est Killing Eve.
Ah oui.
Et ouais. c'est
très bien.
Vous pensez à Eve ou à Eva?
Non, mais Eva,
oui,
parce
mais
que
oui,
je voilà, Killing ouais. Eve, Eva, mais voilà, donc je c'est ce que j'ai regardé. Et elle regarde, en plus, si vous voulez vraiment la blague, on regarde en même temps la série. Killing Eve, sauf qu'elle est un peu plus en avance que moi.
Ah,
donc j'entendais de temps en temps les trucs qu'elle arrivait dans la saison suivante.
C'est horrible.
Ah oui, comme elle a pas de casque.
Il y a un divorce en cours, évidemment.
Évidemment, si vous cherchez une avocate, j'ai ça. Selon une étude de l'université d'Oxford, on perd tous en moyenne 17 minutes par soir à se disputer devant cet écran d'accueil de Netflix. Heureusement, il y a Eva Rock. Eva et sa chronique,
eh ben
17
écoutez,
minutes de gagner.
D'abord, je voulais juste vous signaler que ce soir, il y a un nouveau numéro du Grand Échiquier qui est en direct sur France 2, qui est présenté par Anne-Sophie Lapix.
Il les enchaîne, là.
Il les enchaîne. Alors, au programme, André Manoukian, Nathalie Dessay, Richard Berry, Grand Corps Malade, Emmanuel Béart, la géniale trompettiste Lucienne Renaudin-Vary et d'autres talents du classique, de la danse et du théâtre. Vraiment, on parle beaucoup de culture en ce moment pour rappeler combien c'est un secteur qui a été très impacté par le Covid. Et je pense que c'est très important de soutenir ce genre d'émission. Et puis, j'ai eu un coup de cœur que je voulais vous faire partager, mais un immense, immense coup de cœur. Pour quatre jeunes gens, ils ont 16 ans. Elles s'appellent Shai, Jeneba, Aladi et Ismaël pour les deux garçons. Ils vivent tous les quatre dans un quartier populaire de Paris, dans de grands ensembles. Leur terrain de jeu, c'est un toit d'immeuble qui est devenu un peu leur refuge, leur lieu de rencontre autour d'un narguilé, avec un passe-temps qui est cette joute verbale, vous savez, qui débute toujours par « tu préfères ?»«
Tu préfères faire un taf que t'aimes bien d'ouf, mais tu gagnes un smic ?» Ou avoir 10 000 euros par mois, mais tu fais un taf de merde.
Quoi comme taf de merde, tu gagnes 10 000 euros?
Laver les toilettes publiques.
Mais le Coran, je les lave, je les lèche, je les récure avec des brosses à dents, frère. Non, j'étais malade ou quoi, frère? 10 000 euros.
Qui n'a pas joué à ce jeu de « tu préfères » On y a tous joué. D'ailleurs, quand vous allez regarder cette série qui s'appelle « Tu préfères », vous allez vous demander si tu préfères la fiction ou la réalité, parce que rarement un programme court, il y a 10 épisodes de 7 minutes, n'aura autant flirté avec la fiction et la réalité.
Mais
parce
ça,
que ce que vous venez d'entendre...
C'est de la fiction.
C'est de la fiction.
Ah non, ça c'est vraiment
chaque
un reportage.
Épisode ouais, a été tourné en ce qu'on appelle de l'improvisation dirigée, c'est-à-dire que les deux réalisatrices, Lise Akoka et Romane Guéret, ont donné aux quatre jeunes des situations, elles les ont dirigées également, mais elles ont surtout capté leur dialogue et leur façon de s'exprimer. Et quelle réussite! Jamais, à mon sens en tout cas, l'adolescence n'a été aussi bien traitée, entre conversation cash et puis pudeur des sujets évoqués, notamment quand il y est question de sexualité. Et en fait, leur tu préfères devient des sujets de questionnement existentiel sur la famille, sur l'amour, sur la religion, l'homosexualité, le futur. Et en plus, au gré des 10 épisodes, on pressent le changement de chaque ado, comment il se transforme, les liens d'amitié qui se délitent aussi un peu. Le dernier épisode est remarquable. Et je vous laisse avec Jenaba et Shai qui ont une nouvelle question.
Tu préfères avoir un gosse bien moche et bien con ou pas d'enfant du tout?
Mais attends, déjà, ça veut dire quoi bien moche et bien con?
Bien moche, bien con, trop moche, trop con.
Genre, oui, mais quand t'es con, t'es drôle.
Quand t'es con, t'es drôle.
Bah oui.
Quand t'es con, t'es drôle.
Bah oui. Quand t'es con, t'es drôle.
Okay, et quand on était au collège, quand on était au collège avec Nadia, là, elle était bien con et bien moche. On est d'accord. Est-ce qu'elle était drôle? Elle était loin d'être drôle. Non.
Voilà. Et la suite, c'est dans l'épisode 3 de cette formidable série à retrouver sur arte.tv. C'est une web-série et ça s'appelle Tu préfères, tout simplement.
Et c'est, voilà. Je sais qu'on a explosé le temps de cette partie, mais juste une question, Olivier de Benoît, pour un humoriste.
Trois sont moches.
Non, les trois. Trois, oui, c'est pas mal. Non, c'est pas mal.
Ne vous dites pas lesquelles.
C'était pas du tout ma question. Ma question était innocente, elle n'était pas drôle. C'était juste pour savoir la part d'impro dans vos spectacles. Parce qu'il y a des humoristes qui, tout est écrit à la ligne et d'autres qui adorent au contraire partir en impro.
Alors, l'impro est nulle au départ. C'est-à-dire qu'en fait, le spectacle, je peux jouer devant personne. Et ça a été utilisé ces trois derniers mois.
Ouais.
Et par contre, tout ce qu'il y a en plus, tout ce que le public me donne, tout ce que je trouve, c'est du bonus. Mais je trouve ça dur que trop du spectacle dépende de la qualité spectateur. À la fin, quand un humoriste vient vous voir et dit « Putain, le public était mauvais », c'est dommage parce que quand hier, je me suis éclaté.
Oui.
Et
vous
êtes dans la salle ce soir-là, dit « Ah ben dommage, je reviendrai hier
». On est obligé de proposer un spectacle de qualité tous les soirs.
Les gens, ils payent quand même pour voir un truc à bosser. Et s'ils ne laissent pas dans le public la qualité du spectacle. Je trouve ça assez indécent. Mais voilà, donc tout est... Non, je reviens sur l'enfant, puisque c'est le truc. C'est vrai que dans mon spectacle, j'en parle, il ne faut pas avoir d'enfant préféré. Mais je le dis en spectacle, il ne faut pas le faire, nous on l'a fait. Avec ma femme, on s'était dit en cas d'incendie.
Il y en a un.
René revient.
C'est bien du français. Et en fait, donc j'explique dans le spectacle, je vais le faire, mais j'explique dans le spectacle comment on a choisi notre enfant préféré. Parce que c'est vrai que voilà, mais c'est tous les trucs les plus. Mais c'est vrai, dans les familles, il y a.
Toujours un préféré.
Il y a toujours. Et c'est horrible. C'est vrai que notre enfant préféré, nous, il voyage en première. parce que c'est plus confortable. Ce sont des détails qui sont invisibles pour les autres.
Bien sûr. Puis il n'y a pas de jalousie comme ça entre les enfants, c'est ça qui est bien. Olivier de Benoît reste avec nous jusqu'à
18h.
Une première manche se referme dans l'équipée sauvage. Deux nouveaux journalistes avides d'en découdre vont nous rejoindre. Le couteau, ou plutôt la carte de presse entre les dents. La musique sera au cœur de notre deuxième heure.
Libéré,
heureusement, délivré. Sans Nicolas Carreau qui va céder sa place à des journalistes plus mélomanes. Évidemment, Olivier de Benoît reste avec nous pour nous inciter à faire des enfants.
Ah ouais.
Non, il ne suffit pas de les faire. Derrière, il faut les élever. C'est là que ça se complique.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
La paternité est au cœur de notre avant-dernière émission de la saison, en compagnie d'Olivier de Benoît, expert en paternité avec son spectacle Le Petit Dernier, en tournée dans toute la France, Eva.
Oui, alors il y a plein de dates. Alors vous nous avez raconté que le 13 juillet, c'était une date qui vient de se rajouter à la Touissuire.
À Touissuire.
Touissuire.
La Touissuire.
Touissuire dans les Alpes, je ne connais pas.
Dans les Alpes, voilà.
Voilà, dans les Alpes.
Et après, le 9 septembre, vous commencez cette tournée. Il y a plein de dates, mais on mettra tout évidemment sur europe1.fr. Mais vraiment jusqu'à l'année prochaine, en fait, jusqu'au 6 novembre 2021, j'ai des dates.
Oui, donc, ça va. Ça n'arrête pas.
Jusqu'au 6 novembre 2021.
Oui, mais on a ouvert le planning parce que comme il était complet jusqu'à décembre 21, jusqu'à 2025, le mec, il sera grand-père quand il parlera de son petit dernier. Tu sais, il aura 20 ans, le petit dernier. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est une tournée très, très fournie. Tout est sur, effectivement, les sites internet, etc. Et je suis impatient. Et j'ai joué pour la première fois, donc je le racontais la semaine dernière, pour la première fois depuis 3 mois et demi. Et ça a été dans une petite salle, le Tally Théâtre à Moret-sur-Loing, dans lequel j'ai commencé. Et ça a été un bonheur fou de remonter sur scène. Parce que nous, les humoristes, quand on ne joue pas, on ne sait plus à quoi on sert. C'est vrai que très vite, on se demande ce rythme de vie, cette vie, à quoi ça sert s'il n'y a plus d'objet.
Alors avec ce spectacle, Le Petit Dernier, on prend conscience d'une chose terrible. Ils sont chiants tout petits. Ils continuent à l'être plus grands. Et au moment où on croit enfin qu'enfin, vers 7-8 ans, ils ont atteint l'âge de raison et qu'on va pouvoir jouer avec eux dans de bonnes conditions, paf, ils nous déçoivent encore.
1, 2, 3, soleil, et tu te retournes. Et toi, tu fais 1, 2, tu te retournes, 3, soleil. Alors arrête, hein, ça va bien les conneries maintenant.
Mais on les aime quand même. Olivier de Benoît, on continue de parler de ce spectacle qui reprendra, si Dieu veut, ou si Didier Raoult a trouvé la solution, le 9 septembre prochain. Juste le temps de vous présenter nos deux ultimes concurrents du jour. Alors, Olivier, vous dites souvent que derrière le personnage de gentil macho que vous jouez se cache un vrai féministe. Lui aussi est un authentique féministe, mais à l'espagnol, puisqu'il est notre correspondant à Barcelone.
La femme, il la respecte énormément, la femme. Il en a respecté une ce matin, ce midi, il va en respecter encore une ce soir.
Oui, bonjour Henri de la Guérie.
Bonjour à tous.
Je vois qu'il fait encore très chaud à Barcelone en cette fin d'après-midi. Heureusement, la musique adoucit les mœurs, surtout les vôtres.
Oui, effectivement, je vais vous parler de cet opéra assez exceptionnel, ce concert qui s'est déroulé devant des plantes. On en parle dans quelques instants.
Qu'est-ce que vous avez fait? C'est vous qui avez fumé des plantes,
Henri. Oui, vous avez fumé, Henri.
Un concert devant des plantes, il n'y avait pas de spectateurs, il y avait des plantes.
Effectivement, il n'y avait que des plantes. 2292 plantes dans le grand théâtre Liceu de Barcelone.
J'espère qu'elles ont aimé.
Mais oui.
Face à vous, Olivier de Benoît, un des journalistes parisiens les plus hype. Directeur de la prestigieuse revue Jazz Magazine, Fred Goetti est le genre de type qui ne peut écouter John Coltrane qu'en mono non remasterisé, sous peine de choper des acouphènes. Sauf évidemment quand il a un coup de Ricard dans le pif, là, voilà. Il est beaucoup moins regardant.
Le dance floor est à nous.
Mais oui, bonjour Fred.
Bien sûr, bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Sincèrement Fred, vous avez déjà dansé sur
la John Coltrane, oui.
Non, mais sur la queue leu-leu ou sur du Patrick Sébastien, ça vous est déjà arrivé?
Dans un mariage peut-être, dans une vie antérieure sans doute.
Oui, mais dans ces moments-là, vous...
L'important c'est de danser.
Vous y allez quand même. Ouais. Cet après-midi, en gros, c'est les conseils du boss de Jazz Magazine pour épater vos invités cet été avec une playlist de ouf.
Et oui, et j'ai un scoop, c'est l'été. Alors, reste chez soi, qu'on parte au bord de la mer ou à la montagne, il y a toujours moyen d'écouter un peu de musique aujourd'hui. Hein. Alors, que diriez-vous de 4 chanteuses de jazz un peu moins connues peut-être que les Billy, les Ella ou les Diana, mais pas moins divines? Allez, à tout de suite avec mes enchanteuses du jour.
Alors, la sélection jazz de Fred Goetti pour vous la péter en soirée cet été, ou bien le concert floral de celui qui a visiblement consommé trop de plantes, quel sujet aura vos faveurs? Juste avant 18h, nous aurons la réponse, mais pour le moment, Eva, vous nous dévoilez le florilège du jour.
Oui, le florilège, Olivier, c'est un peu les petites séquences gourmandes et sympas qu'on a trouvées sur le web ces dernières heures. Elles sont très musicales aujourd'hui avec une reprise de Back to Black d'Amy Winehouse chantée par Sofia Karlberg, une autre reprise de Nirvana par James Blake et puis le beau Pio Marmaille qui livre ses coups de cœur culinaires dans une épicerie fine et c'est à découvrir sur Combini. Come as you were, as you were.
As I want you to be. Du glouglou, du miam miam, let's go! J'ai fait un film sur le jaja qui s'appelle Ce qui nous lie. Pendant un an, mon visage a pris 8 kilos uniquement pendant la partie du visage. Hein. C'est-à-dire que vraiment un visage qui était soufflé par le tanin. We only say goodbye. Toutes ces petites terrines comme ça, moi je vous conseille pas. De toute façon, je dis pas qu'elles ne sont pas bonnes, mais je ne le conseille pas parce que c'est souvent trop petit ou alors trop gros. On les ouvre, on se fait un petit quignon et finalement on se dit merde, ça reste au frigo et la fois d'après, pouf, il y a des mycoses et on s'en chope partout sur l'œsophage. Ça, c'est à éviter.
Et voilà, c'était le florilège préparé par Sébastien Bordenave.
Qui chante Amy Winehouse?
Elle s'appelle Sofia Karlberg, vous pouvez la retrouver sur Facebook. Ça s'appelle pas des musiciens du cœur, je vais retrouver le terme.
Ouais, vous le retrouverez
d'ici demain. Les messagers du cœur, pardon. Les messagers du cœur. Voilà,
on vous a vu sur Instagram pendant le confinement avec vos enfants.
Oui, oui, oui.
D'ailleurs, il y en a un qui vous a dit, j'ai demandé à un de mes fils de partager mon affiche dans une story. Mais il m'a dit que c'était du placement de produit, que ça avait un prix.
Ce qui est vrai, c'est que depuis deux mois, je ne fais plus de vidéos avec eux parce qu'ils ne veulent plus faire de vidéos sans être rémunérés.
Oui, mais ils considèrent qu'ils ont raison.
Et donc, voilà. Donc, du coup, on est en deal avec leurs avocats.
Ça avance bien. Vous allez trouver un terrain d'entente.
Ça sera
pas. Vous aimez le jazz, vous aimez les fleurs, mais vous aimez aussi vous moquer des enfants. Ce qui suit pour vous.
Europe 1.
La dernière fois qu'on avait évoqué l'Espagne et l'Andorre dans cette émission, nous n'avons pas fait appel, hélas, à notre correspondant sur place, d'où peut-être le niveau des informations distillées ce jour-là.
Le boulot et la Jonquera, c'est pareil. Hein.
Oui, c'est pareil. pareil.
Mais là, quand tu descends vers Barcelone.
La Jonquera, c'est horrible. Mmh. Oh là là.
T'as les buts en plus, la Jonquera. Je veux dire, c'est... Pardon.
Si quelqu'un. J'ai oublié mon portefeuille là-bas. Si quelqu'un.
On ne vous l'avait pas oublié. On vous l'a soutiré. C'est autre chose. Non, ce qu'on aime.
On l'a soutiré. Il faut que tu me le rendes. Il faut que tu le détends tous les deux.
Ce qu'on aime en Espagne, c'est la musique. Et justement, c'est un concert extraordinaire qui ne se prépare pas puisqu'il a déjà eu lieu. J'avais mal compris l'information de notre correspondant à Barcelone. Un concert qui a été donné devant un public extraordinaire. Et va deviner. Un jardin extraordinaire. Je vous donne un.
Des plantes.
Des plantes.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Olivier de Benoît est notre équipier sauvage cet après-midi, enfin sauvage. Un peu moins depuis qu'il est père de famille respectable, auteur de 4 spectacles et de 4 enfants. Mais jouons franc jeu avec nos auditeurs, Olivier. Comme moi, vous avez été jeune. Oui, à peu près à cette époque-là, au début des années 90. Et comme tout le monde, forcément, vous avez dû connaître.
Dans les soirées, j'étais très très timide parce que j'avais des frères. J'étais dans une école non mixte, etc. Chez nous, on avait plus peur des femmes que des loups. Et donc, non, parce que je pense à cette musique, parce que le premier slow que j'ai fait, c'est avec mon frère.
Il y a eu des jeunesses plus loose que la mienne.
C'est impossible d'en avoir plus. Non, on a une. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait plein de vannes sur ma femme, les femmes, etc. C'est que effectivement, de 0 à 18 ans, je n'ai connu aucune femme. Et voilà. Donc c'est pour ça que quand je pense à ces soirées-là, c'est des soirées entre mecs. Ouais.
Alors, mon lancement ne fonctionne plus, je vous le dis le dis quand même, parce que je pensais que je ne savais pas, je ne connaissais pas votre enfance, votre adolescence. Je disais, comme tout le monde, forcément, vous avez dû connaître les week-ends à Barcelone, les tequila paf qui s'enchaînent, les pilules bizarres qu'on gobe à la volée, et on finit torchant le chiffon y carpet, comme on dit là-bas. Et à 5 h du mat, la Guardia Civile vous ramasse alors qu'on s'exclame
Mayday, Mayday, au secours, papa le Zulu X-Ray.
Oui, voilà, visiblement, Fred Guetti a connu ces soirées-là. On a été jeunes. Mais certains, en choisissant d'aller bosser à Barcelone, le restent toujours. Bonjour Henri de la Guérie.
Bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'un spectacle peu commun à Barcelone. Le rideau du Grand Théâtre du Liceu s'est levé pour un concert devant un public très particulier. Dans la salle, il n'y avait que des plantes, Henri.
Par respect au public et aux artistes, voilà.
Attention les amis, est-ce que vous avez bien éteint votre téléphone portable? C'est ce qu'on entendait l'autre jour. Venez avec moi, fermez les yeux. Je vous emmène dans l'une des plus belles salles d'opéra en Europe, le Liceu, au cœur de la Rambla. C'est là où vous terminez avec la Guardia Civile, Mathieu, il y a quelques années, avec ses fauteuils rouges, ses miroirs, ses fresques au plafond, ce style néo-baroque typique du 19e siècle. Et ce que vous entendez derrière moi, ce sont les chrysanthèmes, un quatuor de Puccini. Vous imaginez sans doute un public attentif, des costumes sombres, des robes élégantes. Eh bien, pas du tout. Dans la salle, tout est vert. Les 2292 sièges sont occupés par des plantes, des ficus, des palmiers. Il y en a partout, à tous les étages, dans toutes les loges. Le vert contraste avec le rouge des sièges. Et bienvenue dans l'opéra du monde d'après. Le concert est quand même diffusé sur internet et les seuls humains présents dans la salle, bien, ce sont les 4 musiciens. C'est un artiste contemporain espagnol, Eugenio Ampudia, qui a imaginé ce spectacle pour cette reprise après 3 mois de silence.
On imagine qu'il a voulu faire passer un message.
Et oui, évidemment. Alors, on en a beaucoup parlé pendant ce confinement. La nature a repris ses droits pendant le confinement. Son idée, donc, c'est de nous inviter à réfléchir sur notre relation avec la nature. L'idée lui est venue pendant le confinement, en écoutant le chant des oiseaux plus fort que jamais, en voyant les plantes près de sa maison pousser plus vite. On écoute ses explications.
Nous vivons la fin d'une époque. Et cela signifie qu'il faut changer certains paradigmes. Nous ne vivons pas dans le même monde que celui qui nous a contraints au confinement il y a 90 jours. Et cela doit se refléter dans chacune des choses que nous faisons.
Voilà, et selon l'artiste, eh bien, ces plantes ont intégré dans leur photosynthèse le fait qu'elles ont participé à ce concert. Et il précise d'ailleurs que le streaming était fait pour que les gens montrent le concert à leurs plantes. Il est encore disponible sur Internet, donc allez-y, n'hésitez pas, ce soir, vous mettez vos plantes devant l'ordinateur et puis vous leur montrez. En tout cas, les plus de 2000 plantes qui ont servi lors de ce concert il y a 10 jours, eh bien, elles ont été offertes au personnel soignant de Barcelone après ces 3 mois et demi de pandémie.
Voilà, donc,
j'ai une petite question, mais qui n'a rien à voir avec les plantes, c'est est-ce que vous avez été voir un spectacle? Il paraît qu'à Barcelone, il y a un spectacle où alors les gens ont des tablettes devant eux et ils rient. À chaque fois qu'il y a un rire, ils payent au nombre de rires.
Ah oui, oui, je me souviens de cette histoire. Est-ce je ne l'avais pas vue, mais je crois que c'est il y a quelques années, je m'en souviens.
Et ça n'existe plus aujourd'hui ?
Je n'y étais pas. Alors, il faudrait que je vérifie, mais je ne crois pas.
Parce que c'est assez insolite. Chacun a un iPad avec la reconnaissance faciale. Et à chaque fois qu'il y a un rire, il y a un clic. Et au nombre de rires, vous payez. Donc, si vous n'avez pas ri, vous ne payez pas. Et si vous avez, voilà.
C'est terrible quand même. Vous seriez prêt à participer à ça ?
Oui, oui, il ne faut pas avoir une bonne prod derrière. Ou un spectacle.
Oui, voilà, il faut être sûr de son spectacle. Eh bien, merci Henri Laguéry pour ce sujet étonnant qui nous prouve qu'il y a peut-être eu pénurie de masques en Espagne, mais en tout cas, pas pénurie de sangria. Merci beaucoup. C'est une femme qui a beaucoup de succès.
Hier, place de Clichy, il y avait la queue.
Non, mais là, je parle de votre succès journalistique. Hein. Vos dons pour l'interview sont tels que, soit parce que j'avais envie de les mettre en avant, soit parce que j'avais envie de bosser moins, j'ai décidé de vous offrir dans cette émission un moment rien qu'à vous. Eva, face à l'invité. Eva qui est en train, pour ceux qui nous suivent sur Europe 1.fr, est en train de fouiller dans la poubelle parce que je crois qu'elle a réalisé qu'elle avait jeté cette interview, cette fabuleuse interview qui arrive, cette séquence qui...
Ah ouais, vous n'allez pas être déçus. Hein.
Ah, je vais pas être déçus, c'est une séquence, c'est un peu comme le dos à dos de Catherine Sellec dans Théo Café, sauf qu'on n'est pas de dos.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage et nous sommes toujours en compagnie de l'humoriste Olivier Debenois qui a su capitaliser sur son expérience de père pour écrire un spectacle assez décapant sur la place qu'occupent nos enfants dans nos vies. Et c'est le moment de l'émission où je passe le flambeau à ma consoeur Eva Rock qui m'a fait part il y a quelque temps de son envie, je cite, d'avoir l'invité pour elle toute seule. Moi ça m'arrange, c'est toujours ça d'interview en moins à écrire. En revanche, pas sûr que l'invité y gagne au change, notamment quand c'est un acteur ou une actrice comme Emmanuel Devos hier, obligé de reprendre Eva assez souvent.
Et je suis fan de Grégory Montel aussi. Et Sergio Lopez en plus.
Sergi.
Olivier Debenois, je vous laisse entre les mains plus ou moins expertes d'Eva Rock.
Oliver Debenois. Il paraît que vous êtes accro à l'actu. Est-ce que c'est vrai ?
Ça, c'est vrai.
Mais genre, toutes les chaînes infos, des alertes sur le smartphone.
Non, je regarde, je passe ma vie sur mon téléphone. Et c'est vrai que je suis absolument incollable.
Et de façon paradoxale, vous ne parlez pas d'actu dans vos spectacles. Vous avez peur de la vanne mal interprétée,
trop ? Si j'en fais des vannes, mais les vannes chaudes refroidissent très vite. Donc, si vous voulez, une vanne aujourd'hui sur même le coronavirus, en octobre-novembre, elle sera plus drôle. Donc, vous êtes obligé d'avoir un socle atemporel et vous rajoutez en fonction de l'actu. Mais voilà. Et puis, je trouve que l'actualité est de moins en moins drôle.
Ah oui, ça, on est bien d'accord. Mais on va faire un petit test d'actu, justement, pour voir si vous avez été accro à l'actu ce matin.
Je veux dire, allez-y.
On y va.
Il va vous défoncer, comme tout à l'heure.
Ouais, allez-y. Ouais.
Qui vient de prendre la présidence de l'Union européenne pour les 6 prochains mois ?
Waouh ! C'est pas le Polonais.
Ah bah oui, wow.
C'est le Polonais, non ?
Non ?
Ah
Mathieu ?
C'est incroyable.
Vous la connaissez très bien.
Comment ça ? Angela Merkel.
Mais oui, évidemment. Évidemment. Quels sont les nouveaux produits qu'on va pouvoir désormais acheter dans les Franprix ?
C'est hyper drôle.
C'est
génial.
C'est des nouveaux produits.
J'avais pas été aussi loin.
Attendez.
Je lis que ce qui m'amuse. Et je reconnais que.
Moi, ça m'a amusé.
Évidemment, on n'a pas le même humour. Mais si vous savoir qu'on a remis dans les rayons le Schweppes Mojito.
Non. Vous allez me bénir parce que je pense que vos gamins vont être ravis. C'est que dans les Franprix bientôt, vous allez découvrir des balles de ping-pong, le bonnet de bain que vous avez oublié, des sacs à dos. Ce sont les produits Décathlon. Des produits Décathlon qui vont être désormais vendus.
Est-ce qu'il y aura le masque qui permet de voir le fameux masque,
qu'on a utilisé d'ailleurs pour des respirateurs.
Mathieu,
mais c'est pas une blague. Ils ont mis ça dans le domaine public et pour faire des respirateurs dans certains pays, etc. Parce que le truc, il s'est
exactement. Voilà.
Ouais. Non, mais je suis sérieux.
C'est vrai.
Merci beaucoup, Fred.
Petite info en plus d'Olivier Debenois.
Voilà. Alors, une dernière question. Sur Europe 1.
Dernière question d'actualité.
Merci.
Dernière question d'actualité qui va tous vous intéresser. Quel film culte de 1974 débarque sur Netflix ?
Waouh ! C'est génial ces questions. C'est génial.
Un film culte.
Oui, mais sur
1974.
Avec une femme.
Lynch ?
Non.
Une femme ?
Ouais, avec une femme, un fauteuil en osier.
Ah, Emmanuel !
C'est marrant hein, comme vous arrivez tout, très vite à te retrouver. Ça sera interdit au moins de 16 ans, mais enfin bon, sur Netflix, attention, ça c'est les parents qui doivent faire gaffe.
Je pense que les enfants, ils ont vu pire. Hein. Ils vont trouver ça un peu soft.
Le mien, l'abonnement premium.
Mais Emmanuel...
Est-ce qu'il vous fait bénéficier de ces codes ou pas ?
Pendant le confinement, c'était gratuit, je crois. C'est ce que tu m'as dit, Mathieu.
Vous êtes bien renseigné. C'est certainement pas moi qui vous ai dit ça.
C'est les infos d'Ève.
Évidemment. Son humour est à la fois corrosif et potache. On peut donc le qualifier de potachosif. Olivier Debenois, notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Si vous êtes aussi calé en jazz qu'Evaroc et que lors d'un trivial poursuite...
Non, c'est pas une blague,
Olivier. Ah si, en fait, c'est une blague.
Bon,
et que lors d'un trivial poursuite à la question de quel instrument jouait Django Reinhardt, vous vous exclamez sûr de votre fait...
Saxophone, saxophone, saxophone.
Alors, vous avez besoin d'une petite remise à niveau. Heureusement, le patron de Jazz Magazine est avec nous et il vous a concocté une playlist pour l'été.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
C'est la dernière ligne droite pour nos quatre journalistes en compétition pour le titre de chroniqueur du jour. Olivier de Benoît, votre analyse à ce stade.
4, c'est beaucoup trop. Je vais pas pouvoir tous les garder. Si quelqu'un est intéressé, je suis prêt à donner la moitié de la portée.
C'est tout à fait l'esprit de l'émission. Il faudra même en noyer 3, puisqu'à l'issue de ces 2 heures, il n'en restera qu'un. Le plus méritant ou le plus rusé. Voici justement venir Fred Goetz. Un des cadors de cette émission, un CV épatant, biographe de Miles Davis, directeur de Jazz Magazine et auteur d'une thèse épatante soutenue avec brio au Collège de France intitulée
« Les vertus libératrices du coming out ».
Cet après-midi, une chronique 100% utilitaire qui va nous permettre d'épater nos amis à l'apéro cet été avec des nouveautés jazz de qualité. Pas que sans ces conseils, vous avez tendance à écouter des daubes, hein, chers auditeurs, mais bon, je vous connais quand même. Voilà, donc Fred, merci, merci d'élever un peu le niveau. Le contraste est saisissant.
C'est l'été. Et quoi de mieux que de réécouter encore et encore l'une des plus belles chansons de tous les temps. Cette version d'une beauté à couper le souffle de Summertime de Monsieur George Gershwin est extraite d'un disque de la chanteuse Jeanne Lee et du pianiste Rand Blake.
Sublime.
Ce disque date de 1962 et s'intitule « The Newest Sound Around ». Et croyez-moi, ce disque n'est pas un simple recueil de duos intimistes.
Fred,
c'est un miracle.
C'est sublime, question rituelle.
Oui.
Est-ce qu'on le trouve, ce disque? Il est à portée du commun des mortels ou c'est une pièce rare que vous avez sortie de votre discothèque?
Pas du tout, il se trouve très facilement en CD, même en vinyle, et on peut même l'écouter sur les plateformes de streaming.
Donc rappelez-nous le titre, parce que ça, c'est vraiment...
« The Newest Sound Around ». Et puisque en jazz, le duo est un exercice courant, que dis-je? Un art majeur, en voici un autre. Encore une voix sensuelle, encore un piano lunaire.
People hand in hand. Have I lived to see the milk and honey land? Where hate's a dream and love forever stands. Or is this a vision in my mind?
Au micro, pardon, Cécile McLaurin. Au micro, la merveilleuse chanteuse franco-haïtienne Cécile McLaurin-Salvant sur une chanson de Stevie Wonder, Visions. Au piano, Sullivan Fortner. C'est bien simple. Cécile McLaurin-Salvant transforme tout ce qu'elle touche en or.
C'est clair.
Elle pourrait chanter le bottin qu'on aura envie d'appeler tout le monde au téléphone. Et fait rare, grâce à sa double culture, elle chante dans la langue de Shakespeare et dans celle de Molière avec la même délectation. Démonstration avec, en prélude, quelques notes d'accordéon de Vincent Perani.
Mon cœur doux et tendre déborde d'amour. Qui voudra le prendre et le garder toujours?
Je sens bien, Mathieu, que vous vous portez volontaire pour garder le cœur de Cécile.
Je suis assez clairement disponible, hein. Oui. Sur les routes, oui,
je vous comprends. Mais bon, mais il n'y a pas qu'avec Jeanne Lee et Cécile McLaurin-Salvant que je voudrais que vous passiez l'été. Car mon autre chanteuse de cœur, voyageons un peu, est coréenne du Sud. Elle s'appelle Yoon Sun Na, je précise
nord,
quand même.
Nord,
non,
il
y en a moins.
Elle
a déjeuné sur l'autoroute.
Oui,
oui. Je me dis, ils sont tous recoupes, tu sais.
Ah bah, tout est parfaitement pensé.
Et cette Yoon Sun Na, écoutons-la interpréter la chanson phare d'une célèbre comédie musicale. Alors tendez bien l'oreille. Les petites notes cristallines proviennent d'un piano à pouce. On appelle
c'est
ça aussi un kalimba. Et c'est Yoon Sun Na elle-même qui en joue.
When the jaw bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel.
Mais
C'est My Favorite Things que chante Julie Andrews dans le film La Mélodie du Bonheur, bien sûr. C'est un film que j'ai vu quand j'étais petit.
Mais comme moi, comme moi. Alors vous devez sans doute savoir que le génial saxophoniste John Coltrane a aussi enregistré
My
Favorite Things, évidemment. Je recommande d'ailleurs à tous nos auditeurs d'écouter aussi sa version. Et enfin, enfin, comment se quitter autrement ? Comment passer l'été autrement qu'avec le sourire ? Mesdames, messieurs, Rose Murphy.
Gee, I like to see you looking swell. Love, baby, tell that lucky day you know darn well.
Mais, écoutez bien. Franchement, cherchez pas plus loin. La chanteuse et pianiste la plus craquante de tous les temps, c'était Rose Murphy, alias la Chichi Girl. Voilà. Non, non, non. C'est pas elle qui doublait Betty Boop.
Ah ouais,
mais franchement, hein, elle aurait pu.
Non, mais ça me fait penser à une autre chanson jazz qui a été reprise un peu en électro, qui fait Busy Line. Vous avez Busy Line. Bon, j'arrive pas très bien, mais
c'est peut-être inspiré par
exactement.
Rose Murphy.
Non, mais je pense
elle
que c'est.
Elle était très populaire
mais je vais
en son temps.
Tout de suite, je pense que c'est Rose Murphy. C'est je pense que c'est elle en fait.
Busy Line, c'est aussi une chanson de Rose Murphy.
Et ben voilà, c'est ce exactement. Que je veux dire. Et ben voilà, vous avez mis du temps à trouver. Parce que le directeur de Jazz Magazine, c'est un peu limite.
Mais non, c'est parce que vous l'avez écouté en version techno ou je ne sais quoi. C'est
mais
ça,
oui,
ce
vous m'avez troublé avec vos histoires de techno. J'adore ce
techno. La techno, c'est de l'électro. Vous connaissez ce courant qui a pris du jazz et qui a mis un peu d'électro. Oui, oui, oui. Oh la vache. En tout cas, la playlist de l'été est faite. Qu'est-ce que vous écoutez chez vous, Olivier Debenin ? Avec tous ces enfants, vous êtes obligé d'écouter. Vous n'écoutez pas beaucoup de jazz, je pense. Vous avez le droit d'écouter.
Ah moi, je suis peut-être le seul au monde à faire ça, mais moi, en fait, je n'écoute que des trucs que je Shazam.
Non, donc vous n'êtes pas derrière la lampe, vous
bien,
êtes très bien.
Bien.
Donc en fait, voilà, mais du coup, je ne sais pas trop ce que j'écoute. Il n'y a aucune branchitude de quoi que ce soit. C'est juste des choses que j'aime.
C'est parfait.
C'est complètement c'est genre de blind test. C'est-à-dire que j'aime. Après, ça peut être par exemple, cette chanson de Rosemary. Rose Murphy. Parce que Rosemary, c'est le couvent de ma
future fille. Oui,
parce qu'une de mes filles va aller au couvent. J'ai décidé.
Elle veut. Ouais,
non, c'est vous non, qui voulez pour elle. Oui,
c'est celle qui est un peu active sur Instagram. Vous avez décidé de la réorienter rapidement.
Voilà, aux Ursulines. Donc, j'aime beaucoup ça. Et si j'avais pu, j'y ai pensé. Je voulais Shazamer pour me la mettre parce que je trouve.
Mais vous savez qu'on va faire mieux. Vous l'avez sur le site d'Europe1.fr, évidemment.
Comme je le consulte tous les jours après.
Comme c'est votre site favori, si on regarde votre historique, je pense de téléphone, on regarde. L'application
en antenne, s'il vous plaît.
Évidemment, mais juste après, évidemment.
Mensuration.
Merci en tout cas, Fred Goetti, pour cette belle balade musicale. Votre chronique vous permettra-t-elle de l'emporter sur vos collègues ? La réponse ne va plus tarder.
Europe 1.
À suivre, chers auditeurs, je vous connais par cœur. Vous êtes incorrigible. Vous allez encore vous pointer à la maison sans le début d'une idée de recette pour ce soir. Que va dire votre femme ? Probablement. Heureusement, Olivier Pouls, notre expert en gastronomie de dernière minute, arrive pour Délices in Extremis. Vous connaissez Olivier Pouls, Olivier de Benoît.
Il a les yeux de son père et la barbe de sa mère.
Bon. C'est lui.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Comprendre le monde sans oublier d'en rire. Vous écoutez toujours l'équipe est sauvage. 2 heures d'allégresse informative qui vous permettent aussi de découvrir une personnalité sous un jour nouveau. Parfois même 2 lorsqu'on reçoit un tandem d'acteurs comme lundi Arnaud Ducret et Michael Youn. On s'attendait à ce qu'ils fassent des vannes. Ils sont allés un peu plus loin en nous livrant carrément des sketchs.
J'ai trop envie de baiser. Et si je peux pas, je baise.
C'était sa meilleure imitation de Benjamin Griveaux.
Aujourd'hui, c'est un autre humoriste, Olivier Debenois, qui passe l'après-midi avec nous. Votre spectacle, Petit Dernier. Le Petit Dernier reprendra normalement le 9 septembre. Eva, on donne quelques dates.
Alors, quelle date, par exemple, vous voulez ? 16 septembre ? Non, mais vous avez vu ?
Le professionnalisme, Eva, jusqu'au bout.
Vous exagérez. Le 22 octobre à Metz.
Les premières.
Le 4 novembre à Bordeaux.
Il
le 7 à Besançon. Mais c'est ça. 28 novembre à Pau. Il y a des dates jusqu'à novembre 2021. Allez sur europe1.fr, il y a tout qui est marqué.
Oui, non, peut-être les 3 premières dates, ça me fait plaisir.
Les 3 premières dates, ça vous fait plaisir. Mercredi 9 septembre à Chenôve, vendredi 11 septembre à Mons et le mardi 15 septembre à Aix-les-Bains.
Voilà, c'est génial.
Et le 16 septembre, Saint-Ismier.
Olivier Debenoît, vous dites, un humoriste est bon quand il a trouvé son personnage, son clown, le con qui est en lui. C'est ça qui est marrant, se foutre de sa gueule. Vous avez 2 types d'humoristes, ceux qui ont trouvé leur personnage et les autres. Vous l'avez trouvé assez tôt, le con en vous.
Oui. Je l'ai trouvé.
Vous avez tout de suite sympathisé.
Non, mais il était déjà là.
Il était bien présent.
Il était bien. Non, mais c'est vrai qu'il y a deux types d'humoristes. Il y a les humoristes qui se foutent de leur propre gueule et ceux qui se foutent de la gueule des autres. Et en fait, moi, j'adore la première catégorie. J'adore les humoristes dont la première victime, c'est eux.
Est-ce qu'il y a parfois un quiproquo sur ce que vous êtes dans la vie, ce que vous êtes sur. Parce que votre personnage, c'est quand même un mec un peu macho, un peu, parfois un petit peu rétrograde. C'est pas du tout. Vous êtes un grand féministe dans la vie.
Oui, non, plus. Mais j'ai jamais eu. C'est marrant parce que j'ai jamais eu une remarque une fois d'une femme qui dit vous en faites trop, vous allez trop loin.
Ça n'arrive pas.
Non,
les gens
au contraire, il y a des femmes
choses.
Qui, à la fin du spectacle, viennent me voir et me disent mais surtout continuez. Ou alors, c'est quoi votre numéro? non, mais sérieux. Non, mais c'est vrai que. Non, dans l'humour, pour être très concret, quand il n'y a pas d'ambiguïté, on peut aller partout.
On peut aller aussi loin.
Le jour où il y a une ambiguïté entre ce qu'on est et ce qu'on dit, il faut arrêter.
Est-ce que vous avez des petits rituels avant de monter sur scène? J'ai lu une histoire de bière blanche.
Oui, je prends toujours une bière blanche et avant de jouer, je me signe. Sur de la pierre, je cherche toujours de la vraie pierre et je me signe le front. Voilà, c'est des trucs improbables, mais qui m'aident. Et je mets l'alliance de ma femme dans ma poche arrière droite.
On blaguait avec le couvent des Ursulines, mais vous êtes très croyant, vous êtes pratiquant.
Alors, je suis catholique pratiquant et j'en suis très fier. Voilà.
Et vous arrivez à trouver de la pierre à chaque fois? Non, mais. non, pardon.
Moi, j'essaie d'élever le niveau d'un peu spirituel, mais la pierre, en fait, la pierre, tu
quand
la
trouves. Quand vous êtes superstitieux et si vous ne trouvez pas le truc qui est important pour vous avant de monter sur scène, pardon, je suis désolée, mais ça peut être très important.
Alors, c'est vrai, parce que
je suis sûr qu'il y a des endroits où vous n'avez pas trouvé de pierre.
Eh ben, je trouve ça brillant parce que si c'est du B13, je peux pas.
Voilà.
J'ai fait ça une fois sur un B13 et je n'ai pas fait la présentation.
Ah oui, voilà. Très mauvaise présentation.
Donc je vais de temps en temps, je sors dehors, je prends le sol, etc., etc. Je vais parfois assez loin, il t'arrive à faire des kilomètres. Je vais faire un bord pour trouver un bout de pierre, mais il faut du granit de Bretagne
uniquement.
Non, mais on est tous fétichistes. On a tous. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais pourquoi les gens se marrent. Et
comment
on a beau le faire 100 fois, mais on peut faire 100 fois un spectacle, mais quand on rentre sur scène, on se dit, est-ce qu'ils vont se marrer?
Ah, vous
et
avez le doute à chaque fois?
Ben oui, et en fait, tant qu'on se dit, on fait la même chose avant, il se passera la même chose après.
Oui, mais comme les gris-gris des sportifs, oui. Finalement. Alors, humoriste, c'est aussi être un peu sportif de haut niveau sur scène, il faut s'entretenir. Je sais que vous êtes bon vivant.
Oui.
Mais l'année dernière, vous avez pris un coach à un moment pour essayer de. Parce que vous lâchiez un peu en tournée, c'est ça?
J'ai pris un coach, il m'a initié à la boxe. Et là, j'ai arrêté, je l'ai blessé. Non, je déconne. Non, mais c'est vrai qu'il faut que je m'y remette. Le confinement a été terrible. Je vois autour de moi, là, vous avez tous la ligne.
C'est parce qu'on est coupé par la table. Ceci, oui. Qui est bien,
non, mais c'est vrai, on ne dit pas assez que ce confinement a bousillé des corps, dont le mien. et c'est pas grâce à la bouffe de ma femme, puisqu'effectivement, elle est très mauvaise cuisinière. Donc, on a pris du poids. Là, c'est un vrai problème.
Et donc, vous allez reprendre un coach pour repartir? Oui, parce que là, la tournée jusqu'en 2021.
Oui, mais la part, là, c'est fini. Là, c'est fini les vacances. J'arrête tout.
Il arrête tout, mais pas la tournée qui reprend le 9 septembre. Oui. Si vous aimez les bonnes choses, rassurez-vous, avec l'Olibrius qui nous rejoint, on ne va pas bouffer des graines.
Europe 1.
Alors regardez Olivier, vous l'apercevez à travers la vitre du studio, vous devez pouvoir le reconnaître, un léger embonpoint, l'œil gourmand.
Émile Louis.
Presque. Olivier Pouls, notre expert gastronomique, délice in extremis, c'est juste après.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Une fois, en 2012, une femme qu'il avait rencontrée sur Mythic a tenté de l'entraîner dans un resto végétarien. Comme il avait vraiment envie de la pécho, il a serré les dents. Il a goûté le tofu au baie sauvage du Cap, bu du maté bio du Machu Picchu. Mais quand le plat de résistance est arrivé, en l'occurrence du quinoa nature cuit à la vapeur, il a craqué.
Je ne mange pas de graines!
Bonjour Olivier Pouls!
Et je vous le confirme. Aussi belle soit la femme, si elle n'a pas un solide coup de fourchette, je peux vous garantir qu'elle n'a aucune chance avec
elle. Mais vous pourriez aller dans un vegan, dans un restaurant vegan avec elle. Hein.
Même avec Julia Roberts, il la planterait à l'entrée du restaurant vegan.
Évidemment.
Olivier Pouls, cette semaine, des recettes quand même plus légères que d'habitude, pas de tartiflette en vue, parce que c'est l'été.
Oui et non, et là je vous avoue que je suis face à un petit problème, parce que j'ai dû changer ma recette plusieurs fois aujourd'hui. Tout d'abord, j'étais parti sur une recette effectivement très légère d'été. Puis je me suis rappelé un truc avec Olivier de Benoît.
Avec le gros Olivier de Benoît.
qui voue une passion absolue pour le foie gras.
Quelle mémoire incroyable. Avec le nombre d'invités.
Alors est-ce que c'est toujours vrai?
Non, mais c'est malheureusement toujours vrai. Je suis un malade.
Alors comme je viens d'entendre ce qu'il vient de dire sur le confinement et sur le coach et tout le bazar, est-ce que ma recette de foie gras, je la donne quand même?
Non, bien sûr.
J'ai envie de dire un foie gras estival. Un foie gras de saison.
Bien sûr. Un foie gras léger. Allez-y.
Avant d'attaquer le régime, il faut se mettre en forme.
Et surtout, cette recette, on ne peut la faire qu'en été, parce qu'on va mêler le foie gras avec des fruits de saison. Et ça, c'est vraiment très bon. Alors, la cuisson du foie gras, essayez, si vous ne l'avez jamais fait, de cuire le foie gras au barbecue. C'est fantastique.
Mais il va fondre.
Non, pas du tout. Mais
il va couler à travers la grille, on va aller le chercher à la main. Parce que...
Mais non, si vous faites ça sur un barbecue qui est bien chaud, sur une grille qui est bien chaude, au moment où vous allez le poser dessus, il va tout de suite se mettre à caraméliser, à croûter. Et donc justement, il ne va pas fondre et dégouliner comme un vieux fromage que vous ne pourriez plus effectivement après aller récupérer. Donc ce qu'il faut, c'est une bonne braise, une grille bien chaude, tac, vous posez votre tranche de foie gras dessus, vous caramélisez, vous la retournez. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un petit peu de gras qui va couler. Et dans ce cas, vous savez, pour éteindre les flammes qui vont jaillir, le petit coup de la bouteille avec le trou dans le bouchon, là, ou un petit peu d'eau sur les flammes.
Je ne connaissais pas le petit coup de la bouteille.
Ça s'appelle un vaporisateur.
Le petit trou dans le bouchon, Olivier.
C'est un vaporisateur, mais à la façon pousse.
Et alors, à côté de ça, vous allez faire...
C'est pas le petit barbecue, ça. C'est pas le barbecue,
son beau-frère.
Et à côté de ça, vous allez faire également au barbecue une brochette de fruits jaunes de saison. Alors, pêche, abricots, brugnons, ce que vous voulez.
Ah, ça remplace le chutney.
Bah oui, et donc ça aussi, cuisson au barbecue, rapide, 1 minute, 32 minutes. Il faut plus fatiguer les fruits que réellement les cuire. Et alors l'association foie gras cuit au barbecue avec cette petite brochette de fruits de saison, je vous garantis que vous reporterez encore votre régime à quelques jours.
Objection, votre honneur, si on n'a pas de barbecue.
Bon, on peut le faire.
Non mais.
Ou si on n'a pas de foie gras.
Ouais.
Ça peut arriver
aussi. Et s'il n'y a pas de pêche non plus, Mais dans ce cas, vous savez quoi ?
Vous appelez des libéraux.
Vous faites une bonne salade de quinoa.
Oh non, pas de quinoa.
Non, mais c'était est-ce qu'on peut le faire au four ? Je ne sais quoi.
C'est
question.
Plus compliqué, c'est pas la même cuisson. On peut le faire à la poêle, évidemment, qu'on peut cuire le foie gras à la poêle sur une poêle bien chaude et vous snacker, vous rajoutez vos quartiers de fruits dans la poêle.
Merci.
Et vous.
C'est beau, c'est que
manger aussi.
Olivier, vous en étiez que Olivier Pouls a apporté son carnet pour nous donner cette recette qui consiste donc à foutre du foie gras sur
une ligne. Il a des problèmes de mémoire.
Non, parce que j'étais parti sur une toute autre recette et je viens de changer d'avis.
Ah, un steak tartare avec des frites. Mais ça, c'était trop réagi carnet.
C'était beaucoup trop long. Trop fastidieux pour nos auditeurs. Merci Olivier Pouls. Ah, c'est le moment de l'émission que préfèrent nos invités sadiques. Pensez pour Arnaud Ducret qui avait adoré le moment du vote final. Qui sortira de ce studio la tête haute, la gloire en bandoulière ? Qui au contraire s'exclamera
« On s'est bien fait baiser !»
A tout de suite pour la grande finale.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Plus qu'une joie, c'était un honneur de recevoir aujourd'hui le plus titré des humoristes français, Olivier, Marie, Emmanuel, de Benoît, de Gentissart.
Je suis Godefroy de Montmirail, comte d'Apremont et de Papincourt, et j'ai droit de vie ou de mort sur mes terres.
Olivier, justement, c'est un moment qui va vous rappeler de cruels souvenirs, puisque c'est le moment où des têtes vont tomber. C'est l'heure du qui tout double. Chacun de nos journalistes a 10 secondes pour nous expliquer pourquoi c'est lui le meilleur. Frédéric Michel, pourquoi voter pour vous cet après-midi ?
Bah, car je vous ai bien fait rire, hein, Mathieu, Eva et Benoît, et la sécurité routière, c'est l'affaire de tous.
La sécurité routière, c'est l'affaire de tous. Voilà qui est sexy comme manière de se vendre. Fred Doëty, pourquoi voter pour vous cet après-midi ?
Une saison complète passée à défendre toutes les bonnes musiques. Et pour l'été, quatre chanteuses dont les voix uniques et magiques sont levées à la vie, à l'amour, autour de vos tympans. Alors pour ces voix, bah, donnez-moi votre voix, s'il vous plaît, merci.
Et c'est vrai qu'on a eu envie de les chasamer, ces chansons. C'est toujours un bon point pour vous. Henri de Laguérie avec nous en duplex de Barcelone. Pourquoi voter pour vous ?
Parce que pour une fois, je ne vous ai pas parlé de touristes ivre-morts ou de plage. J'ai essayé de faire un sujet un petit peu chic, haut de gamme, de la musique classique. Et puis, on m'a dit que tous les coups étaient permis en fin de saison. Je vais corrompre l'invité. On se connaît. Il y a 10 ans, on était à un mariage ensemble. Je suis un très bon ami de son cousin Nicolas. J'espère qu'il va quand même voter pour moi.
Ah oui, Olivier de Benoît, Henri de Laguérie, c'est la grande mafia aristocratique française. C'est vrai, effectivement,
oui,
exactement. Je comprends mieux.
Je suis un temps où on était en haut.
Le bon vieux temps.
Patience, Henri. Oui, c'est le bon vieux Henri.
Les derniers sont les premiers, comme disait le roi. Nicolas Caron, pourquoi voter pour vous cet après-midi ?
Je suis votre cousin Nicolas, Olivier.
Souvenez-vous, un mariage à 15 ans.
Oui, à 15 ans. Ouais. C'est lui.
En Vendée.
Tout me revient maintenant.
C'était dans les Landes.
Bon, Emma, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
C'était hyper serré aujourd'hui, mais vraiment. Et c'est Nicolas Caron qui l'emporte.
Nicolas Caron qui l'emporte avec son roman qu'on ne connaît pas, mais qui a cartonné partout dans le monde, sauf en France. Faites-vous votre propre avis. On rappelle le nom du livre, Nicolas.
Watership Down.
Vous le dites mieux que moi. En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui sans hésiter à Fred Goetti, car il a composé la playlist de mon été.
de très très belle musique, très sensuelle, ça peut toujours servir par temps estival. Mais vous le savez, ici, c'est à l'invité que revient la lourde responsabilité de trancher. Olivier de Benoît, c'est vous qui allez... Pourquoi vous riez, Eva? Qu'est-ce qui... Mais... J'ai juste fait un lancement là. Qu'est-ce que vous imaginez?
J'écoute Olivier de Benoît.
Ah, vous écoutez Olivier de Benoît. Oui, un petit peu de respect. C'est le moment. Oui. C'est le moment très solennel du vote. Vous avez 3 points. Qui va l'emporter?
Ah ben moi, j'espère que ce sera Eva.
Non. Alors c'est pas possible. Eva hors compétition. Elle a un statut.
Mais je m'en fous.
Non. Il y a pas de dérogation. Vous devez choisir parmi les journalistes
qui ont compris le message.
Hors compétition.
06 84.
Il n'a pas changé.
Vous verrez ça hors antenne. Pour l'instant, j'ai besoin qu'on me dise qui a remporté cette émission.
Ah mais moi, j'espère Henri.
Henri de la Guérie.
Eh oui.
Et alors avec 3 points, Henri de la Guérie
remporte
l'équipe sauvage. Bravo. En duplex de Barcelone, il remporte la 203e journée
Merci.
De l'équipe
Vive
sauvage.
Vive
le roi.
Merci. Prends notre revanche.
Navarre, oui. Henri de Navarre.
Calmez-vous les amis. On remercie Olivier de Benoît. On rappelle votre spectacle, le petit dernier, de retour si tout va bien le 9 septembre. On a même des dates. Eva, vous allez nous donner les 3 premières.
Les 3 premières, ça sera donc le mercredi 9 septembre à Chenôve, le vendredi 11 septembre à Mons et le mardi 15 septembre à Aix-les-Bains. Et toutes les dates sont à retrouver sur europe1.fr.
Merci Olivier de Benoît d'avoir été avec nous cet après-midi. Je remercie mes équipiers du jour, Eva Rock, Fred Goetti, Frédéric Michel, Nicolas Caro et Olivier Pouls. L'équipe est sauvage revient demain 16h pour la DER des DER. Et oui, tout de suite, restez sur Europe 1, écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu et bonsoir votre équipe est sauvage. Et rendez-vous demain, hein, 16h. Assurément, très belle soirée Mathieu.
18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.